Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tant qu'on perd pas, on est content, mais tant qu'on gagne pas, on n'est pas heureux.
I will finish now and I will go to IKEA, Conforam, to help my wife to choose the things.
Bah, Olivier, regarde pas un match de Coupe d'Europe africaine. Ah, oui.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit en direct sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot, l'After, votre espace de liberté à vous les supporters. Au 32-16, on vous attend avec Florent Gautreux qui est là. Salut Florent.
Salut à tous.
Et avec Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors l'événement ce soir dans l'After, c'est la journée de Ligue 1 du week-end. Bien sûr, vous le savez, pas de match aujourd'hui, dimanche 5 mai, pour se souvenir du drame de Furiani en 92. Nous allons débattre de Ligue 1 pendant 2 heures ensemble. Walid veut donner son avis sur les soucis d'arbitrage hier. On donnera aussi notre avis sur la course aux places européennes, sur le maintien. Et on parlera de Rennes. Florent veut notamment en parler. Et puis à 48 heures du match retour de Paris face à Dortmund, une question en débat. Comprenez-vous le désamour des supporters parisiens envers Kylian Mbappé? On n'a pas eu le temps de prendre le temps de faire ce débat depuis quelques jours. Il y a eu beaucoup de matchs, donc on va le faire ce soir. 32-16, direct studio.
C'est pas comprenez-vous qu'il soit évident qu'il y ait une forme de désamour?
Ah, pour toi, c'est évident qu'il y a une forme de désamour.
Bah, c'est logique. Après on peut considérer néanmoins, on en parlera, que c'est pas définitif et que c'est peut-être un peu du dépit amoureux, mais force est de constater qu'il fait pas tout pour se faire aimer en ce moment.
Et puis on parlera dans quelques instants également de la disparition aujourd'hui de Menotti, entraîneur emblématique de l'histoire de l'Argentine et du football en général, lui qui était champion du monde avec l'Argentine en 78, César Luis Menotti. Ce sera dans quelques minutes. Et puis on a, outre les directs foot, on a de la F1 ce soir. Direct foot, c'est notamment Roma-Juve, hein, il y a un partout actuellement entre les deux équipes, et puis également un match au Portugal qui pourrait emmener le Sporting au titre de champion ce soir. C'est Famalicão Benfica. Si Benfica ne gagne pas ce soir, eh bien le Sporting serait champion. Il y a actuellement 0-0, donc pour l'instant c'est le cas. Et puis de la F1, la légende Jean-Luc Roy est parmi nous dans le studio. Walid, salut. Tu connais Jean-Luc?
Bien sûr. Salut Gilbert, salut Walid, salut Florent,
salut tous. Grand Prix de Miami, départ imminent. Jean-Luc, on va te laisser nous régaler.
Eh ben j'espère, écoute, en tout cas les pilotes sont sous les ordres du starter. On va partir pour 57 tours de ce tracé long de 5 412 km. Alors, en pole position, vous le savez, Verstappen devant Leclerc, et voilà, c'est parti avec un très bon départ de Verstappen, un mauvais départ de Charles Leclerc, qui est devancé immédiatement, semble-t-il, par Carlos Sainz. Attention, le freinage de Pérez à l'extérieur, il s'est récupéré, il a touché personne. Verstappen est devant pour le moment. L'autre Ferrari se trouve au 4e rang avec Carlos Sainz. Pérez, après son tout droit, se retrouve 5e, devant Norris 6e, Hamilton 7e. C'est bien parti donc pour Verstappen pour le moment, qui a profité au maximum de la position. Leclerc s'est bien récupéré après l'erreur de Pérez tout à l'heure, qui avait tiré tout droit, qui a essayé de prendre tout le monde au freinage dans le premier virage, mais ça n'est pas passé. Donc Verstappen profite au mieux de la pole et commence déjà d'ailleurs à creuser un écart sur la Ferrari de Charles Leclerc. C'est Piastri qui a pris un très bon départ également. Piastri qui s'était lancé depuis la 6e position sur la grille de départ, qui est actuellement 3e devant Carlos Sainz. Pérez toujours 5e pour le moment. À signaler que au niveau du choix des pneus, tout le monde part en médium, sauf, et c'est très important, Lewis Hamilton. Depuis la 8e position sur la grille de départ, Lewis a choisi les pneumatiques durs. Donc on peut s'attendre naturellement à ce que son relais soit plus long. Attention, les deux Alpines au côte à côte. Ouh là 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 là, on se frictionne entre les deux pilotes. Là, personne ne veut lâcher. Heureusement, ils ne sont pas touchés pour le moment. Ça a été chaud là entre Gasly et Ocon pour le moment. 13e Gasly et Ocon 14e. Ah, j'ai eu peur qu'il se touche là au ras du mur, hein, Gilbert.
Ah ouais, et puis Pérez, on aurait dit Jérôme Bretagne au carrefour de l'Aqua Boulevard quand il vient à RMC. Il a pris tout droit.
mais il s'est rattrapé, comme Jérôme.
Et ça continue. Entre les deux pilotes alpines, on ne s'est pas fait de cadeau. Là, je peux te dire que, bon, heureusement, j'en connais là, dans les stands qui ont dû transpirer très très fort. Et on va boucler le premier tour de ce Grand Prix de Miami. Donc, oulala, c'est également chaud. Un petit peu plus loin derrière, entre Lewis.
C'est Verstappen qui a gagné.
Hamilton et Nico Hülkenberg. Et Verstappen est devant. 1,4 seconde d'avance hein, pour le moment. À l'issue de ce. On est entré dans le deuxième tour.
On va pas dire
tour.
Que c'est déjà plié, Jean-Luc.
On va pas le dire. On va pas le dire. On va attendre un petit peu. On va voir surtout quel est le rythme que peut adopter Charles Leclerc. Parce qu'en course, Hamilton, Verstappen se plaignait hier d'avoir des problèmes de motricité, d'avoir cramé ses roues arrière. Donc on va voir quelle va être la durée de son premier relais. Ça, c'est un petit peu la clé de la course. Normalement, il y a qu'un arrêt de prévu, hein, parce que la piste n'est pas très abrasive à Miami. Donc, a priori, les pilotes devraient arriver à gérer sur la durée de la course. Et je répète, Hamilton va rester en piste plus longtemps que ses rivaux parce qu'il a monté un train de pneumatique dur. On avait également un pilote qui était parti en pneu soft, et c'est Bottas, mais Bottas il est 19e, donc a priori il va pas trop peser sur le déroulement de la course.
Il y a deux flics à Miami, mais Ocon et Gasly c'est pas à Miami.
Pas mal. Écoute,
c'est un peu chaud quand même, hein.
C'était très chaud, mais ils sont pas touchés. Heureusement, j'ai eu peur avec la sortie du mur là, du virage 14. Heureusement, il lui a laissé juste ce qu'il fallait, mais on s'est frictionné, on va dire ça comme ça. A priori, pas de dégâts.
Mais comment tu sais que c'est le virage 14?
Ben, parce que je connais un peu le circuit.
Il est fort.
Tu as dit, il nous aurait dit virage 12, on lui aurait pas dit.
Oui. Attention, c'est virage 14. Je vais vous dire que c'est le 13. Allez, on va se mettre d'accord comme ça. Non, pour le moment, toujours Verstappen leader. On est entré dans le troisième tour avec une avance qu'il a portée à 1 seconde 6. Il est un petit peu plus rapide, mais pas tellement. Il prend seulement 2 dixièmes au tour pour le moment à Charles Leclerc en deuxième position. Celui qui est très rapide, c'est Oscar Piastri, le jeune Australien de l'équipe McLaren qui, je vous l'ai dit, a pris un excellent départ. Et c'est lui l'homme le plus rapide en course. En 1.32, 827 pour le moment. Il est en train de refaire son retard sur Charles Leclerc. Donc attention à Piastri, je répète. Donc Verstappen premier, Leclerc deuxième, Piastri troisième, Sainz avec la deuxième Ferrari quatrième, Pérez est cinquième après son départ un peu tonitruant, Norris sixième avec l'autre McLaren, Hülkenberg septième, excellent, Hamilton huitième, Tsunoda neuvième, Russell dixième, et du côté des Français, Gasly est maintenant douzième et Ocon quinzième. Je me demande si quand même la monoplace d'Esteban n'a pas un petit peu souffert de ses frictions.
Et tu vois là le fils à papa là, Lance Stroll.
Ah, Lance Stroll, oh là là, vous êtes dur. Et il est 11e, c'est pas nul du tout. Bon, hein. Il est 11e, non.
J'ai cru comprendre que sa place était un peu.
Le mot est un peu fort. Disons qu'il est brouillon, le garçon, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des grands prix où il est un peu en vrac. Il y a tout, mais c'est pas bien rangé. Donc forcément, il y a des fois où ça pose problème, oui.
Bon, bah, tout à l'heure, pour refaire un point, bien sûr, tu restes avec nous.
Quand tu veux.
Quand vous voulez. Je sais que t'en as pas trop. Donc
Des fois, si, parce que je suis, mine de rien. Je ne dis rien, mais je suis. Bah si, le débat que tu as lancé, bon, j'ai une petite explication, bah oui.
Très bien, mais si tu en parles à l'heure, on pourra participer avec plaisir. Alors, on va accueillir Nicolas Cougot pour démarrer ce soir. Nicolas Cougot qui, évidemment, est le taulier du site Lucarno Posé, qui parle de tous les footballs, particulièrement du football sud-américain. Nicolas, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à tous. Salut.
Alors, on a voulu te passer un coup de fil parce qu'on a appris en début de soirée le décès de César Luis Menotti à l'âge de 85 ans. Évidemment, entraîneur légendaire du football mondial. Alors, dans l'after, on a déjà raconté mille fois les Menottistes contre les Billardistes, l'école Menotti, champion du monde 98, l'homme qui...
78.
J'ai dit 98, ouais. Oui, légère boulette. Mm-hmm. 78.
Première fois pour l'Argentine.
En effet, tout ça sous la dictature de Videla en Argentine. Bref, j'imagine que sur Lucarno Posé, vous allez remettre au goût du jour quelques papiers retraçant sa vie. Mais c'était un entraîneur qui a énormément compté, et pas que dans le foot sud-américain. Je reprends une de ses déclarations historiques que m'a envoyé Thibault Leplat. Menotti disait « Le football, c'est l'opéra des pauvres ». Nicolas.
Ouais. Ah, il a compté et tu. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est quelqu'un qui. Je me souviens d'un article dans le Grafico où on lui demandait quel serait son héritage. C'est il y a très longtemps, l'article, il doit avoir 7-8 ans. Et il disait qu'il n'en aurait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ses héritiers, il y en a un qui est très connu et il l'adorait, hein, il aimait beaucoup. Enfin, il aimait à ses débuts, c'est Guardiola, qu'il avait rencontré. Hein, ils avaient beaucoup discuté ensemble quand ils étaient allés. Guardiola était passé par Rosario. On sait tous que Guardiola a discuté avec Bielsa, mais il a discuté aussi avec Benotti. Et voilà, et je sais que Menotti disait que Guardiola avait réussi en gros ce que le Brésil 70 et ce que, entre guillemets, il voulait pas le dire, mais ce que lui non plus n'avait pas réussi, c'est-à-dire à imposer une façon de jouer, un jeu qui balayait, et ça c'est ses propos, qui balayait toutes les tricheries et les mensonges. Alors tu l'as dit hein, tout à l'heure, il y a eu ce combat ménotisme-bilardisme, c'est toute l'Argentine de la fin de siècle. Hein. c'est voilà, parce que c'est aussi les deux premiers champions du monde.
Pour résumer, c'était un peu Menotti.
Le romantique.
Menotti, le romantique, ouais. Avec le jeu attaquant et Bilardo, le pragmatique, ouais. Et la défense.
Si je peux me permettre, Nicolas, il y a plus que ça, oui, il y a évidemment ça, hein, bien sûr, Gilbert. Il y a aussi l'idée que la victoire n'est pas tout, qu'il y a le chemin pour exactement. Arriver à cette victoire. Et ça, c'est, enfin, Bielsa, c'est l'héritier de c'est un héritier de ça. Donc, il y a aussi le fait, ce discours qu'on a souvent explicité dans l'after, oui, le résultat n'est pas tout. Alors que Bilardo assumait, et il a gagné aussi, hein, comme ça, et Deschamps, ça est comme ça, de gagner, quel que soit, on va dire, le style, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve aussi intéressant, Nicolas, que ça dise beaucoup du pays de foot qu'est l'Argentine. Parce que est-ce que nous, on a ce style de débat, tu vois, qui structurerait la France du foot, c'est pas le cas.
On essaie de nous l'avoir. J'ai tenté un débat d'Ultra Girard, mais j'étais d'accord.
Non, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas, tu vois, ces deux courants aussi forts et deux personnalités aussi fortes, Nicolas, tu vois, en France.
Non, on est complètement d'accord et c'est hyper important cette notion de processus parce que même lui dit que je sais que souvent la question c'est une question qui est souvent évoquée par exemple tu parlais de Bielsa mais c'est la même chose Bielsa on dit mais Bielsa il a jamais rien gagné bon c'est pas vrai mais c'est pas grave mais cette notion de gagner autant de titres bah lui c'est pareil quand on lui demandait si ça l'affectait il disait la seule chose qui m'importe c'est que je puisse gommer les défauts qui permettent à un joueur de progresser et voilà vraiment cette notion de processus et par contre ce qui est hyper important sur le point sur lequel il faut vraiment insister parce que forcément les jeunes générations savent pas forcément mais il a imposé un certain style de jeu une certaine philosophie on l'a enfin vous l'avez dit tous hein, tout à l'heure c'est en gros le football est un art hein, concrètement il y avait un côté artistique on va rappeler que Menotti était un homme très à gauche il était au parti communiste être au parti communiste dans les années 70 dans l'Argentine de Videla voilà je vous laisse deviner hein, il finissait souvent au fond du Rio de la Plata ah bah et tu pouvais même prendre les vols de la mort. Hein. Mmh. On pouvait te balancer dans le Rio de la Plata. Quoi. Donc voilà, son père était péroniste. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très très à gauche, qui était le sélectionneur et qui donc a imposé cette façon de jouer de l'Argentine.
Il a été sélectionneur de l'Argentine de dictateur.
Ouais, mais tu vois, il l'a fait en gagnant d'une certaine manière. C'est-à-dire que son Argentine jouait d'une certaine manière. Il a mis le jeu devant tout. Son équipe était très artistique, très libre. Et c'est vrai que ça lui a été entre guillemets parfois reproché le côté. Oui, mais bon, lui, il savait ce qui se passait. Il a un petit peu protégé les joueurs. Il les a mis dans une bulle. Il a fait en sorte que les militaires ne viennent jamais au centre au centre où était la délégation argentine et certains joueurs lui ont reproché de l'avoir coupé de l'avoir mis dans une bulle bon mais il avait mis en place une philosophie qui était entre guillemets une philosophie d'artiste et une philosophie de gauche dans une sélection que les dictateurs applaudissaient alors ça fait partie de tous les messages cachés qu'il y a eu sur la Coupe du Monde 78 et que la dictature n'a pas vu donc c'est aussi ce qui a compté et c'est aussi pour ça que c'est resté dans cette notion de voilà c'est un football très particulier le football de Menotti c'est très offensif on l'a dit c'est très il disait toujours qu'il y a quatre éléments hein, qui sont importants en football et que parmi les quatre il y en a deux qui reposent que sur les individualités c'est les défenseurs et les offensifs eux doivent savoir s'exprimer donc il y avait toute cette notion de laisser libre cours à l'art. Et c'est vrai que dans l'Argentine de Videla, bon, c'était pas trop l'air du temps. Et on est dans une époque aussi où le football est extrêmement brutal. Le football des années 60-70 en Argentine, il est brutal. Il est symbolisé par Zubeldía et Estudiantes du début des années 70, dont Bilardo est le capitaine et qui sera ensuite, au début des années 80, il viendra après Menotti. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Menotti fait pas ses débuts parce qu'il débute à Newell's mais il se fait connaître véritablement avec Huracán en 73 quand ils sont champions et il succède à Zubeldía et Bilardo déjà donc il y a tout déjà hein, ce petit combat et voilà il y a tout cela qui vient cela c'est aussi pour ça peut-être qu'on n'a pas cet équivalent en France parce qu'on n'a pas eu de tels débats et de tels affrontements entre philosophie et un homme qui a changé un sport à une époque parce que vraiment si vous allez voir des images de football argentin des années 70 c'est terrible.
Cherche pas trop loin avant 98 en France le football c'était considéré comme un truc de beauf décérébré.
C'est vrai.
Donc ne serait-ce que penser c'était pas inconcevable en fait. C'était pas.
Non mais surtout on n'a pas eu.
Alors qu'en fait il y avait des confrontations entre par exemple Georges Boulogne.
Voilà. Il y a eu. Non mais il n'y a pas eu trop de confrontations plutôt.
Thibault Leplat a écrit un bouquin là-dessus sur l'école française. française.
Il y a plutôt eu des courants. Il y a plutôt eu des courants successifs en France. C'est-à-dire, il y a eu Bateux qui a été important.
C'était Bateux-Boulogne. Ouais.
Voilà, Bateux-Boulogne. Et après, t'as aussi.
Menotti-Villardot à notre échelle.
T'aurais pu avoir un. S'il y avait une culture foot, t'aurais pu avoir de beaux débats. Par exemple, Suodo versus Jacquet. Par exemple, quand tu regardes le jeu à la nantaise, on va dire, pensé par Suodo, mais enfin par Arribas déjà, puis par Suodo, les héritiers de Nouex. Versus ce qui s'est passé finalement dans les années 90 avec Aimé Jacquet et la DTN. Très intéressant parce que Jacquet a essayé de faire un petit peu une synthèse en prenant des Nantais, tu sais, dans l'équipe de France, il n'a pas réussi. Donc il y aurait pu avoir ce débat si on avait eu, on va dire, suffisamment, si on avait été suffisamment un pays de culture foot, mais on n'était pas à ce niveau-là au niveau de l'argent.
D'autres choses, un gars comme Luis qui était très inspiré de l'Espagne et de ce qui se faisait en Espagne, il y avait aussi son style et sa façon de jouer à lui. C'est innovant, bon bref. Giroud,
après, on est peut-être aussi sur ce débat parce qu'on est sur deux champions du monde.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que l'histoire s'écrit aussi après. Ce qui est dingue, c'est ce que tu dis, c'est que ils sont déjà imbriqués tôt. Parce que ça n'a pas été c'est un très beau joueur, mais pas un grand joueur.
Non.
Et en revanche, un entraîneur. C'est marrant. J'ai vu que son surnom c'était le Flaco. C'est Pastore.
Ouais.
Et donc, ça n'a pas été mon cas.
Mais lui, c'était plus. Voilà, ça m'a fait penser à ces coachs qu'on voit là. Aujourd'hui, pas forcément des grands joueurs, tu sais, mais qui deviennent de très très bons coachs. Et c'est vrai que devenir que les deux soient champions du monde, alors qu'en gros ils ont ferraillé, on va dire, sur des terrains un peu identiques, c'est assez intéressant.
Après, mais Nico, juste une question, il était DTN de la dernière Coupe du Monde aussi, non ?
Exactement, il est revenu en fait. Il a, je crois que son dernier véritable poste d'entraîneur, ça doit être 2007, je crois. Et depuis, il faisait rien. Et il a été nommé directeur technique des sélections en 2019.
Okay.
Et donc, c'est lui avec le board qui a renouvelé Scaloni, justement, parce que Scaloni, normalement, c'était un intérimaire. Hein.
Oui, bien sûr.
Ils l'ont renouvelé à ce moment-là jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Donc, en gros, tu peux dire qu'il est champion du monde.
Voilà.
2022.
Donc, ça fait un palmarès en plus pour Menotti dans un registre. Non, mais dans un registre différent. C'est-à-dire que dans deux grosses consécrations de l'Argentine, il en a fait partie.
C'est ça, exactement.
Bah écoute, merci pour ce petit rappel historique. Puis je vous renvoie au site Lucarne Opposé, bien sûr, où vous retrouverez toute l'actu du foot sud-américain. Vous allez faire un truc sur Menotti, du coup ?
Oh bah oui, il y a quelques articles qui sont déjà dans la maison, donc on va les ressortir un petit peu. Et oui, forcément, on est obligé. Menotti, c'est Menotti quoi. C'est un homme, sans commune mesure et voilà. C'est
un gars qui a énormément compté dans l'histoire du foot.
Ouais, complètement.
Et oui, puis cette année, on a Beckenbauer qui est décédé et qui était champion du monde. Menotti, du coup,
et ce qui est intéressant sur les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on aura sur Mbappé tout à l'heure, moi je trouve que c'est vraiment le fondement de nos débats foot d'aujourd'hui avec les ballons d'or, les récompenses individuelles et versus le collectif, qui moi m'importe plus que tout le reste. C'est justement que quand t'as eu Maradona après, c'était compliqué de construire la sélection autrement qu'en gros on joue pour Maradona comme après on joue beaucoup pour Messi et comme. Plus collectif en 78, enfin toi, quelque chose de plus collectif, des équipes qui ne comptaient pas seulement sur un seul joueur. Et je trouve que c'est intéressant, on regarde ce qu'on va avoir tout le temps en France sur Mbappé, de savoir comment tu construis ta sélection ou comment tu ne la construis pas quand tu as un joueur comme ça aussi emblématique.
Ça va requérir un entraîneur particulier parce que tu vois, par exemple, Menotti n'a jamais construit, par exemple, 82, il a Maradona, il y arrive pas, il a pas convoqué en 78, mais 82, il y arrive pas, et quand Bilardo arrive, il construit une équipe autour de Maradona, il est champion du monde.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Merci Nico. Nicolas Couvreur,
je vous en prie, merci les gars.
Bonne soirée, à très bientôt dans l'After. Dans quelques instants, on est de retour pour parler de l'arbitrage du week-end. Walid va en parler, puis point foot, point F1 également à suivre.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h20, Florent Gautreau et la Walid Acharchour est là. Jean-Luc Roy également pour le Grand Prix du soir. C'est à Miami. C'est quoi ces Grand Prix de quoi du coup là ? Des États-Unis, de Floride,
bah,
de
le Grand Prix de Miami, parce qu'en fait, il y en a trois aux US. Il y a celui d'Austin et Las Vegas, tu sais, en fin de saison.
Ouais.
Alors, nous sommes dans le 12e tour. Maintenant, il s'est passé pas mal de choses, hein, puisque Piastri a continué sa remontée. Je vous avais signalé tout à l'heure que c'était l'homme le plus rapide en piste. Eh bien, il a réussi à dépasser la Ferrari de Charles Leclerc pour le gain de la deuxième position. Et l'écart ne se creuse pas tellement. Ah, ça y est, la valse des arrêts au stand a commencé avec Albon. Et maintenant, là, c'est Sargeant qui s'arrête également. Voilà également Stroll qui va repasser au stand. On est au 12e tour, hein, je le répète, sur les 57 à parcourir. Et l'écart, je le disais, est réduit à 2 secondes 6 seulement. après 12 tours. Hein, donc Verstappen a du mal à creuser un écart sur la McLaren de Piastri. Les deux Ferrari sont derrière dans le sillage avec Leclerc devant Sainz. On a cru un moment d'ailleurs que Carlos Sainz allait être en mesure de prendre l'avantage sur Leclerc. Et puis Leclerc est resté en troisième position. Un tout petit trou derrière, 2 secondes 4. On trouve Sergio Perez avec l'autre Red Bull. Norris avec la deuxième McLaren et sixième. Hamilton vient à l'instant de prendre l'avantage pour le gain de la septième place sur Nico Hülkenberg. Hamilton avec la première des Mercedes, bien sûr. L'autre Mercedes est derrière Russell. Et à l'instant, Russell dépasse lui aussi Hülkenberg avec la Haas. Le dernier dans les points, c'est Tsunoda. Devant Pierre Gasly, qui est 11e. Et Esteban Ocon est 13e pour le moment. Et je l'ai dit, la valse des arrêts au stand a commencé. Donc les pilotes s'arrêtent, changent les médiums pour monter les pneumatiques durs. Et ensuite, eh ben, ça va faire 45 tours pour aller au bout. Ça va être long.
Très bien, voilà, la Floride, c'est l'état de Jean-Luc. Hein. La Floride, t'es jamais en Floride, Olivier ?
Non, jamais.
Alors la Floride, les contrôles de vitesse, c'est très contrôlé la vitesse sur les routes en Floride ?
Mais pas du tout, c'est beaucoup moins qu'en France, il n'y a aucun radar fixe.
Et, non, sur, non, oui, et alors surtout, tu peux faire du deux roues sans casque, c'est complètement aberrant.
Oui, oh, alors moi fous, je mets le bien sur ma moto quand même.
Ah ouais ? Tu peux faire du deux roues sans casque, personne ne t'arrête.
C'est pas obligatoire. Il y a 30 états sur les 50 états américains où tu peux rouler sans casque, il n'y a pas que là.
C'est
ouf. Comme ça.
Un
avocat avait réussi à démontrer, si ça vous intéresse, a réussi à démontrer dans un accident de motard que le casque avait pu causer des dommages plus importants que s'il n'en avait pas eu. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc,
si un jour j'ai besoin d'un avocat, je l'appelle parce que là, il est fort. Franchement.
Donc, du coup, il n'impose pas le casque, mais bon, moi je préfère le mettre.
En parlant du Jean-Luc.
J'ai vu Zidane un peu partout.
Ambassadeur Alpine, tu sais.
Ouais. Il faisait des photos, il remettait les prix, il était très heureux.
Ouais.
Il était comme un enfant.
Ouais.
Un enfant avec un gros chèque dans la poche.
Oui, bien sûr. Ça y est,
C'est logique.
Tu nous gâches le
stade. Non, parce que là, tu nous l'as fait un peu la bise.
Non, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il disait.
Il avait l'air
heureux d'être là.
Non, c'est vrai qu'il n'encourage pas forcément des équipes qui gagnent. Donc, c'est tout à son honneur. C'est chaud quand même pour Alpine.
Oui,
c'est compliqué. Bah,
alors là, ils ont l'air de redresser un tout petit peu la barre sur ce Grand Prix. Ils étaient moins mal qualifiés, on va dire, puisque Gasly était 12e et Ocon 13e. Et puis là, tu vois, pour le moment, c'est pas trop mal, hein, franchement. Bon, on a eu peur tout à l'heure, hein, quand même, parce que les deux, ils ont bien failli s'en mettre une là. Mais bon, heureusement, on sait qu'ils sont normands tous les deux. Ils se sont rencontrés tout le courant de leur carrière. Et je trahis pas de secret, ils passent pas leurs vacances ensemble. Non, ça, c'est sûr.
Ouais. Walid, Jean-Luc, c'est l'ancienne école. Tu ouvres un peu la porte, il fait 3 minutes.
Ouais.
Walid là-dessus, la vie t'a pris.
J'apprends de toi, Flo.
Puis Walid me pose des questions, moi je réponds.
Pour l'instant, là, toujours 0-0 entre Famalicão et Benfica à la mi-temps. Pour l'instant, le Sporting donc est champion. Et puis le match italien du soir, Roma-Juve. Un partout à 10 minutes de la fin. Jingle à Cherchour, s'il vous plaît.
Bon, sinon, tu.
Moi, si, il y a Astérix, Obélix, Vercingétorix, Milou.
Vercingétorix.
Bref. Tu voulais revenir sur les histoires d'arbitrage hier soir, notamment à Metz, j'imagine.
Oui, je voulais parler de ce qui s'est passé à Metz. Alors, je parle pas beaucoup d'arbitrage d'habitude, mais là.
Tu dis ça comme on dirait un coach qui parle.
Non, mais souvent. Enfin, j'essaye de parler de terrain et de ne pas trop parler d'arbitrage, même si ici on fait pas mal de débats. Mais là, avec ce qui s'est passé entre Metz et Rennes, c'était trop gros pour que je n'en parle pas, parce que pour moi, ça. Je vais pas dire ça biaise, mais ça fait très très mal aux Messins sur la rencontre, et parce que je trouve qu'il y a un problème plus global par rapport au VAR, notamment, et par rapport aux arbitres sur les dernières semaines. C'est que bon, je remets le contexte. Hein. Hier, Metz menait 2-1. Il y a un penalty qui est très très généreux sifflé pour Rennes sur Kalimuendo, sur une petite poussette de Traoré, et derrière il y a un carton rouge grotesque donné à Mikotadze, qui est le meilleur joueur de Metz sur les dernières semaines. Je pense que tout le monde l'a vu, et derrière, en allant voir le VAR, je pense que tout le monde aurait enlevé le carton rouge de Mikotadze, parce qu'il se passe absolument rien. En fait, il ne mérite pas ce carton rouge. On pense que Mikotadze va revenir sur le terrain. Et finalement, il confirme le rouge. Et donc déjà, on a eu encore une après-midi grotesque d'arbitrage en Ligue 1, et ça commence à devenir récurrent. Là, c'est Monsieur Buquet. Et puis surtout, j'ai vu passer une vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, de Saïd Njimi, qui en parlait, je crois, chez nos confrères de l'équipe, où il parlait en fait du rapport entre les arbitres et le camion, et le fait que.
Ici aujourd'hui, ils sont plus dans un camion. Hein.
Oui, enfin,
dans un VAR Center à Paris.
Oui, voilà. Bon. entre ceux qui appellent la VAR et enfin ceux qui sont à la VAR et l'arbitre. Et il expliquait un truc hyper intéressant et il disait que en fait l'arbitre, s'il était déjugé et qu'il revenait sur sa décision, en fait il y avait un système de notation
qui les sanctionnait.
Qui sanctionnait l'arbitre. Ouais. Et de l'autre côté, si la VAR appelle et que l'arbitre ne revient pas sur la décision de la VAR, s'il va pas dans le sens de la VAR est aussi sanctionnée. Donc en fait, il y a une espèce de concurrence sur le terrain entre l'arbitre et ceux qui sont à la VAR.
Bien sûr.
Et alors que normalement on devrait aider les arbitres, et en fait ça doit être le football qui doit sortir grandi. On doit pas punir, on doit pas être dans une compétition entre deux personnes. Et c'est ce qui fait que dans la même équipe. Ouais. C'est ce qui fait que sur les dernières semaines, en fait je me rends compte que il y a pas mal d'arbitres qui ne veulent pas se déjuger. Et y a la VAR qui essaye de montrer à tout prix qu'ils ont raison, et ça commence à devenir grotesque. Et le problème, c'est qu'une équipe comme Metz aujourd'hui, on en parlera après, en paye les conséquences, parce que Mikotadze est le meilleur joueur, parce qu'il reste deux matchs contre Strasbourg et contre le PSG, et que sans Mikotadze, on sait très très bien que ça va être très très compliqué pour essayer d'aller chercher un maintien direct pour Metz. Donc ça ouvre un débat quand même sur aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain.
Dré aussi, qui est directeur du foot là, à Metz, va demander à ce que le rouge soit enlevé. Mais si d'aventure le rouge est enlevé, qui c'est qui va s'énerver? C'est Lorient, Le Havre et les autres qui vont dire « Ouais, mais pourquoi ?»
Oui.
Le meilleur joueur là, non.
Il y avait eu la même chose pour Les Melou. Il y a deux semaines, il avait pris un match.
Qui en fait, par effet papillon, vont en créer l'autre. Enfin, c'est surtout ça.
C'est cette histoire de pourquoi en fait les arbitres sont sanctionnés si on peut rectifier leurs erreurs. À quoi sert en fait la VAR? Si à ce moment-là, en fait, on veut dire regarde, t'as fauté en fait, t'as fauté, et si tu te déjuges, t'as fait une erreur et donc tu as passé un week-end en Ligue 2.
C'est pas moi qui vais contester ce que tu dis. Déjà la VAR, l'image n'est jamais la vérité. Déjà c'est un problème.
Non mais au-delà de ça, surtout Gilbert, maintenant qu'on l'a,
ajoute ce que tu décris.
Mais maintenant qu'on l'a, en fait, ça devient pervers en fait. Et non, ça dénature toutes les décisions.
Ça y est, tu fais partie maintenant du camp du bien.
Non mais je sais pas si je suis un anti-VAR, mais je dis juste qu'à un moment donné, à partir du moment où elle est là et qu'elle veut rectifier des choses, ne rentrons pas en compétition là-dessus.
Flo, est-ce que tu es d'accord?
Oui, non, évidemment, je suis d'accord. Après, ce qui me l'autre éclairage de par rapport à ce que dit Walid et sur toute cette problématique du VAR et en France, c'est une problématique de l'arbitrage en France. C'est-à-dire que la façon dont on gère le VAR en France, même si nous on est contre, on va dire philosophiquement, on peut remarquer aussi qu'il est mieux utilisé ailleurs. Soit peu utilisé, moins utilisé et mieux utilisé en termes de temps, de délai, tu sais, pour la décision. On l'a vu récemment en Angleterre, notamment.
Après, il y a des problèmes autre part aussi.
Non, il y a des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne m'étonne pas qu'en France, on ait des soucis quand je vois, et c'est un débat très intéressant qu'on peut avoir, que la façon différente dont des arbitres, Le Texier et Turpin, pour pas les nommer, ont arbitré en Ligue des Champions et arbitrent en Ligue 1. Quand tu vois la façon dont ils ont arbitré parfaitement en Ligue des Champions et la façon dont ils arbitrent très mal, parce que justement, il y a toute cette problématique dont tu parles, le rapport à la notation, la façon d'être déjugé et d'être mal noté si tu fais appel à la VAR au lieu effectivement que ce soit une aide. Tout ça, c'est la perversité, on va dire, du système français qui a abouti à ça. Donc moi, plus loin que la réflexion sur le VAR, je dirais que aujourd'hui, on a d'abord, il faut le dire aussi, moi c'est pareil, je m'exprime très peu, je soutiens plutôt les arbitres, tourner la difficulté, parce que moi souvent j'ai dit, par exemple pour Le Texier, mais il est bon cet arbitre. On m'a dit, ouais mais regarde et tout. Alors c'est vrai, j'ai regardé des matchs où il avait une façon de faire en Ligue 1 qui n'était pas la bonne, ou il cartonnait, etc. Comme par hasard, ils peuvent faire beaucoup mieux, ils l'ont montré en Ligue des Champions. Avec des joueurs d'ailleurs aussi quand même éduqués à la Ligue des Champions, qui savent que il faut la fermer et il faut faire un peu différemment. Donc il y a aussi une éducation des joueurs. Mais après, il y a des mauvais arbitres. Aussi, on a des mauvais arbitres, et Buquet fait quand même partie des gens qui font beaucoup d'erreurs. Donc en fait, qu'est-ce qu'on remarque avec cette façon de faire? Là, ce qu'il a fait, lui, c'est un énorme péché d'orgueil, en fait. Il a, à la fois par rapport à la notation, mais tout simplement par rapport à sa première décision, il a refusé de voir, alors que c'était visible, que finalement, ce qu'il avait pris pour un coup d'épaule un peu dangereux, n'était finalement que... D'ailleurs, il s'est retenu, Mikotadze, quand il est arrivé à fond, puis il a ralenti à la fin, il a compris qu'il était en train de faire une bêtise. Mais... qu'est-ce que ça souligne? Ça souligne, un, que Frappard, qui n'a pas d'ailleurs été sélectionné, elle n'est pas une bonne arbitre.
Non,
que Buquet n'est pas un très bon arbitre. Il fait effectivement des petites erreurs régulièrement.
Frappard est un autre exemple, parce que sur OL Valenciennes, elle arbitre exactement sur ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où elle ne veut plus être déjugée, elle est complètement à l'envers. Donc en fait, elle ne veut plus.
Oui, mais... Ouais, mais c'est pour ça, c'est pourquoi je te dis.
Tu as fait un petit raccourci qui pourrait être mal interprété. Tu as dit, tu as enchaîné l'affaire Mikotadze en disant et Frappard, machin. Frappard n'a rien à voir avec l'affaire Mikotadze.
Ce que je veux dire plus globalement, c'est que ce que souligne Walid, c'est pas tant le problème du VAR et de la façon dont c'est géré, c'est de la façon dont l'arbitrage en France est géré. On a des arbitres insuffisamment bons, et pour les bons, on les rend mauvais. C'est ça qui est dingue. Donc c'est ça, et là on a clairement une révolution à faire à ce niveau-là. Et effectivement, ça passe peut-être par le fait que si la VAR continue à être utilisée, eh bien effectivement que ce soit pas considéré comme une faiblesse d'aller demander une aide à la VAR. L'exemple de Mikotadze était assez emblématique parce qu'effectivement, c'est pas une action de jeu, c'est pas un but, mais c'est vrai que l'image. Là, pour le coup, ça m'aurait moins gêné, tu vois, sur un fait comme ça. Un peu comme dans les commissions de discipline avant, où on utilise la vidéo pour les retirer. Ce qui sera peut-être le cas d'ailleurs, parce que la commission de discipline.
Oui, enfin, va aller se défendre, hein,
ouais, mais elle va aller se défendre. Donc, il y a moyen. Mais plus globalement, on l'a vu avec la guerre des patrons de l'arbitrage, mais la qualité de certains arbitres est insuffisante. Et surtout, effectivement, notre système et la façon de fonctionner rendent bons arbitres mauvais en Ligue 1.
Sur le match contre Metz, il y a un penalty à siffler. Pour Rennes, notamment sur le coup franc de Bourigeaud avec une petite
main.
Avec une main, et le défenseur fait volontairement la main.
Et toi, tu dis qu'il y a pas péno sur la poussette.
Et pour moi, il y a pas péno sur Kalimuendo. Il y a beaucoup plus péno pour moi sur le deuxième cas que je viens de citer. Et je me pose la question. Mais je suis pas sûr. Mais je me pose la question. Est-ce que la VAR ne demande pas à l'arbitre d'aller voir parce qu'ils se disent. Si ils nous déjugent, on va être aussi moins bien noté.
Moi, je sais pas. Ce que je sais,
en fait, ça ouvre la question. Ça ouvre des questions.
Moi, je suis beaucoup plus. En fait.
Si je vais au bout de ton raisonnement, Buquet, je dis, moi, je préfère que Metz aille en Ligue 2 plutôt que moi.
Non, je pense pas. Je
n'irai pas jusque là, mais en tout cas,
moi, je suis beaucoup plus clément. Tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est plus l'affaire Mikotadze, parce que sur la première, on est dans le cas. Moi, je me mets toujours un peu dans le cas de l'ancien foot. On est dans le cas où il estime que sur cette action, sur sa première impression, il y avait faute. D'ailleurs, il y a quand même un contact, oui, il y a quand même quelque chose. C'est amplifié par Kalimuendo. Mais je peux pas dire que là, tu vois, par exemple, il y aurait pas de VAR. Tu pourrais dire là, c'est l'arbitre qui doit interpréter. C'est son choix, c'est sa décision. En revanche, sur Mikotadze, effectivement. Là, c'est un truc qui est hors du jeu, hors des buts, et tu peux dire, bon, attendez, là, en fait, effectivement, c'est un peu trop sévère, et j'avais mal vu. Et le fait qu'il le fasse pas,
il va voir et il le confirme.
Ah, il est un peu obligé. Ouais. Je pense qu'il a maudit, en fait, les gens de la VAR de l'avoir appelé.
C'est pas possible.
Dans un instant, on aura Alexandre pour conclure sur ce dossier, puis on enchaînera sur les matchs qui concernaient le haut du classement. On parlera de Brest, de Monaco, dans quelques minutes, entre autres, et on enchaînera ensuite sur Rennes. Dans l'after, on est là jusqu'à minuit. On se retrouve dans quelques secondes avec la Formule 1, notamment.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilles Darbribois.
22h35, Walid Acharchour est là, Florent Gautreau est là, pas de Ligue 1 ce soir, vous le savez, nous sommes le 5 mai, journée sans match, systématiquement en hommage.
Tu vois, on parlait de
Furiani,
on parlait de culture foot tout à l'heure, et je trouve que la lutte qui a été celle des Corses pour tenter de faire imposer cette mesure a été une bonne chose, parce que. Puisqu'on parlait de culture foot, dans les pays.
Sur le chat YouTube, il y a plein de gens qui se disent, mais pourquoi il n'y a pas de Ligue 1, je comprends pas.
Non, mais t'as raison de le dire. 5 mai 92, il faut rappeler, il y a plein de nos confrères et plein de gens qui il y a eu 18 morts, hein, de mémoire, et des centaines de blessés.
Tribune qui s'est effondrée, match Bastia-Marseille de Coupe de France.
Et tout ça pour des raisons mercantiles, hein, puisqu'on rappelle que c'était pas pour vendre plus de places et que les tribunes provisoires étaient pas suffisamment arrimées. Bon.
En gros, il y a 3000 personnes dans une tribune de 1005, quoi.
Ouais, c'était très terrible. Et bon, ouais, on a vécu ça tous, par écran interposé, on se souvient notamment de Jean-Michel Larquet qui était sur place, qui avait fait un job incroyable.
Qui était dans la tribune et qui était à deux rangs de l'effondrement.
Et qui est descendu après sur le terrain. Et donc il a fait vivre cette soirée un peu terrible. Enfin, pas un peu terrible, cette soirée tragique. Et il faut rappeler ça, t'as raison d'abord de dire, un, qu'il y a eu ce qui s'est passé. Deux, puisqu'on parlait de culture foot, de dire que dans un pays comme la France, je trouve que c'est très fort et très bien d'avoir accédé à la demande des Corses, qu'il n'y ait pas de match pro, hein, je crois, parce que c'était pro, hein. Pas de match pro le 5 mai. C'est quand même un truc très, 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 très fort, mais qui n'a pas été gagné tout de suite.
Non,
hein. C'était une lutte longue, et c'est une très bonne chose, puisqu'on parlait de culture foot, de souvenirs, de mémoire, ça fait partie des choses tragiques, terribles qui ont eu lieu. 92.
Point Formule 1, Jean-Luc, le Grand Prix de Miami. Et là, on commence à rentrer dans dans les poteaux là, je sais pas ce qui s'est passé là.
Eh oui, 22e tour hein, donc c'est pas une course facile hein. Je l'avais signalé pour Verstappen qui n'avait que 2 secondes 6 d'avance tout à l'heure sur le deuxième. Et bien là, il est sorti de la piste et il a emmené justement un plot qui délimite la piste. On a cru même que ça pouvait endommager sa moustache avant gauche, ça n'a pas été le cas, mais le plot est au milieu de la piste maintenant. Ça veut dire qu'il est...
c'est un élément de la voiture. Hein.
Bon. La moustache, c'est l'aileron avant, si tu veux, l'aileron avant gauche, effectivement. Alors, on est entré dans la valse des arrêts au stand, je l'ai dit tout à l'heure, et Charles Leclerc s'est donc arrêté. Charles était en troisième position à Virtual Safety Car à l'instant. Ça veut dire qu'on va figer les positions donc et conserver les écarts. Les pilotes doivent lever le pied naturellement, mais les écarts ne seront pas réduits. Hein. C'est uniquement quand il y a un safety car qu'on regroupe tout le monde derrière la voiture de sécurité. Là, voilà, les pilotes cassent la vitesse, mais on conserve l'écart probablement pour aller chercher ce plot voilà, qui est au milieu de la piste.
Il est bien, il a mis ses warnings.
Oui. Donc pour le moment, je répète les positions. Voilà, les courageux commissaires, faut toujours leur rendre hommage parce que c'est pas évident de sauter sur la piste comme ça quand il y a des monoplaces. Voilà, on va
ramasser tous les débris. Surtout si un mec oublie de ralentir.
Oui, surtout s'il y en a un qui oublie de ralentir. Mais ça, c'est une très bonne solution qui est venue des États-Unis, hein, parce que pendant longtemps, même en Formule 1, on protégeait ça par des drapeaux jaunes et les pilotes levaient ou ne levaient pas le pied. Donc on a vu parfois des situations un petit peu rocambolesques. Donc Verstappen est au commandement. Là, ça va être très rapide. Hein, le virtuel safety car. Piastri est deuxième à 4 secondes 6 maintenant. Sainz est troisième à 7 secondes seulement, je dirais, hein, au bout de 23 tours. Donc, c'est pas très facile pour Verstappen, je me répète. Norris est quatrième avec l'autre McLaren. Charles Leclerc, qui est le seul à s'être arrêté, il a fait une très belle opération en s'arrêtant très tôt. Alors, évidemment, le virtual safety car ne sert pas ses intérêts parce qu'il était l'homme le plus rapide en piste. Là, il vient d'établir le meilleur tour en piste en 1:32.113 à l'instant. Lewis Hamilton est sixième. Et voilà, on arrête Verstappen. Très bonne réaction de la part de Red Bull. On s'y attendait parce qu'évidemment l'arrêt au stand va durer exactement 21 secondes comme pour les autres, seulement ça coûte moins cher puisque les monoplaces sont à un rythme beaucoup plus calme pour le moment, donc en fait dans la pratique ça va lui coûter beaucoup moins de temps par rapport à ses adversaires. Il va économiser au moins 5 ou 6 secondes. Très bien joué de la part de Red Bull pour assurer donc la position de
Verstappen. J'hallucine la vitesse des...
Ouais. Une seconde neuf au stand.
C'est sûr que la dernière fois que tu as Twingo chez ton garagiste en bas de chez toi là, elle est restée la journée.
Ça prend un peu plus de temps.
Je salue mon garagiste parce qu'il est rapide par rapport à certains. Et là, une seconde neuf.
Non, mais là, c'était la bonne réaction. Mais une nouvelle fois, hein, Verstappen n'est pas aussi à l'aise qu'on peut le croire, pas aussi à l'aise qu'il l'a été jusque-là. Il est vraiment obligé de se défoncer. Puis on le voit avec le rythme adopté par Sergio Pérez, parce que Pérez, lui, a un petit peu le mal. Il s'est arrêté beaucoup plus tôt pour changer de pneumatique. Et il n'est pour le moment que 9e, Sergio Pérez.
Très bien, pendant ce temps-là, à part tout score final entre la Roma et la Juve en Italie, et puis toujours 0-0 entre Famalicão et Benfica. Pour l'instant, Benfica ne gagne pas, donc le Sporting est virtuellement champion du Portugal. On a Alexandre au 32-16 qui voulait rebondir sur l'avis de Walid, là, sur l'arbitrage. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir les gars, merci de me recevoir. C'est la deuxième fois que je passe dans l'After, rien depuis 5 ans, et supporter de Valenciennes, mais un vrai supporter de Valenciennes, pas comme celui que vous avez reçu le mois dernier.
Je me souviens pas.
T'as des comptes à régler.
J'ai des comptes à régler avec le fait que vous prenez des gens qui seraient quand même supporters de Valenciennes qui ne le sont pas. Moi, je suis né à Valenciennes, en région valencienne, j'ai toujours vécu là.
T'as fait partie de ceux qui ont chanté après la descente le national, c'est pas si mal. Le national,
moins, nous,
c'est pas si mal.
On réagit mieux face à ça que les supporters de l'Estac, voilà.
Bon, sur l'arbitrage, tu voulais dire quoi?
Alors, sur l'arbitrage, je voulais dire... Le vrai problème, c'est pas tant l'incompétence des arbitres français que leur origine à cette incompétence. Et moi, je pense que l'incompétence des arbitres français, elle est à chercher évidemment du côté des instances, Ligue comme Fédé. Et un premier indice qui va dans ce sens selon moi, c'est le fait que Monsieur Turpin, Monsieur Le Texé, quand ils sont en Coupe d'Europe, ils sont meilleurs que ça. Et je pense qu'à l'Euro, ils seront meilleurs que ce qu'on voit en Ligue 1. Pourquoi? Parce que c'est pas l'UEFA qui va les décoter, c'est pas l'UEFA qui va les mal noter. Et donc, forcément, ils arbitrent mieux que ça, même avec la VAR. Et moi, je pense que le problème de l'arbitrage en France, c'est le principe du poisson qui pourrit par la tête. Le problème, il a cherché de ce côté-là.
Bah, écoute, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Après, tout à l'heure Flo pointait hein, le niveau de certains. Bon, il y a forcément des différences de niveau. Même si demain il y a un encadrement qui est beaucoup plus fluide et que les décisions aberrantes, comme le décrivait Walid là, de notation entre VAR et arbitre central changent, ça changera pas le niveau de certains malheureusement.
Non, mais il est il n'est pas impossible que dans le management, dans le recrutement, on rate aussi des arbitres qui soient meilleurs et qui sont pas montés. Voilà, il faut ça, c'est quand même dingue. Honnêtement, Rudy Buquet, c'est pas la première fois qu'il a des soucis sur
alors, rappelons que tous les ans, il y a des arbitres qui redescendent.
Hein. Ouais, bien sûr, mais non, franchement, il y aurait beaucoup de choses à dire sans doute sur la façon dont on sur les montées descentes des arbitres, mais aussi sur la façon dont on les forme et surtout sur le côté un peu intouchable de certains qui, une fois en Ligue 1, ont une attitude qui n'est pas la bonne attitude. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut réussir à changer. Bon, ça se change pas comme ça, ça se modifie pas rapidement. Mais en fait, le VAR a au moins eu ce mérite, terrible mérite, que de montrer aussi de révéler les failles encore un peu plus grandes des arbitres français. C'est ça qui est terrible, parce qu'il y en a beaucoup qui évidemment ont été déjugés par le VAR parce que ils avaient fait des erreurs, d'autres qui n'osent plus prendre de décision. Alors là, c'est la majorité maintenant des arbitres avec le VAR en craignant d'être déjugés, et puis d'autres qui eux sont de bons arbitres, mais parce qu'ils ont un statut un peu d'intouchable en France, sont moins bons en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Donc à la fin, on arrive quand même sur un champ de mine, quoi.
Allez, enchaînons avec le haut du classement, parce que bon, évidemment, c'est parcellaire, parce qu'il y a des matchs qui ne se sont pas joués. Nice compte un match de retard, Lens compte un match de retard, Marseille compte un match de retard, Lille compte un match de retard. Un mot sur Brest, les gars, parce que Brest, une nouvelle fois, n'a pas gagné là face à Nantes. Alors, vous allez dire, ils sortaient de ce match de feu à Rennes, hein, où il gagne 5-4. Mais bon, c'est sur les 4 derniers matchs, il y a une seule victoire. Et en fait, le 0-0 d'hier contre Nantes, il confirme quand même un glissement, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, après hier, ils ont été, c'est vrai, je vais pas dire malmenés, parce que la possession, elle était brestoise, mais on a senti quand même que Nantes pouvait ouvrir le score, à l'image de Dablin qui encore une fois était le plus dangereux côté nantais, mais qui a mangé un petit peu, qui a mangé la feuille de match et qui aurait pu ouvrir le score. Mais c'est surtout, on se rend compte que la présence ou non de Pierre Lesmelou, elle est indispensable à cette équipe de Brest. Hier, il sort encore très tôt et ça change quand même la physionomie de la rencontre. Après, il va falloir voir ce que va faire Lille, notamment contre Lyon demain soir. Mm-hmm. Ils ont un calendrier où je crois qu'ils jouent Reims et Toulouse sur les deux derniers matchs, donc ça reste quand même un calendrier abordable. Toulouse vient de perdre contre Montpellier et la saison elle est terminée, et Reims, avec ce qui se passe en ce moment, je suis pas sûr qu'ils soient compétitifs sur les trois derniers matchs. Donc il y a quand même la possibilité d'aller encore chercher cette troisième place. Ils sont devant à 2 points, mais c'est vrai que c'est un peu moins, c'est...
Si Lille prend la main demain, ils ont plus leur destin entre leurs mains, quoi.
Oui, après il faut que Lille batte Lyon à la maison, c'est totalement réalisable. Il faudra voir aussi le calendrier de Lille, je l'ai pas. Mais en tout cas, on sent que oui, sur ce match contre Nantes, j'ai senti un peu de fatigue, moins de créativité, et surtout un Lesmelou qui, au milieu de terrain, quand il est pas là, c'est un peu plus compliqué. Ils vont à Nantes, Lille, et ils reçoivent Nice, donc c'est un peu plus compliqué quand même.
Oui, exactement.
Lyon, Lille, alors, Nantes, Nice.
Juste sur la dynamique brestoise, ton avis, Flo, et ensuite on va écouter Eric Croix qui était tout à l'heure l'invité d'RMC et qui a parlé d'un autre sujet.
Ce qui est intéressant, c'est que je pense que les débats sur l'arbitrage, là, justement, ont aussi effectivement occulté ça, ce qu'on avait dit il y a déjà 2-3 matchs. Enfin, moi, j'avais tenu ce discours-là, c'est-à-dire que derrière la polémique et le sentiment d'injustice qui était légitime, sans doute, il y avait autre chose, il y avait de la fatigue, il y avait effectivement une forme de glissement, on sentait qu'ils étaient moins forts, et un changement de système. Et Roy l'a assez bien expliqué d'ailleurs, ils s'en sont sortis parfois quand même, mais qui fait de Brest une équipe beaucoup moins solide. Ils ont pris 13 buts sur les derniers matchs. Alors évidemment, il y a eu 0-0 sur le dernier, mais avant, ils en avaient déjà pris 3 contre Metz, ils en ont pris 5 contre Lyon, ils en ont pris 4 contre Rennes.
4 contre Lyon.
4 contre Lyon. Ouais. Et donc, si tu veux, ça, c'était pas.
Ils en avaient pris 2 contre Monaco.
C'est 2 contre Monaco, donc c'était pas Brest, ça. Et donc, Roy l'avait expliqué, il avait dit, on s'en sort quand même encore avec ce nouveau système, mais il faut accepter de prendre des buts et que ce soit un peu plus compliqué, sauf que c'est un système qui, en termes d'énergie, c'était terrible. Quand ils sont allés, le match contre Lyon, il a fait du mal dans les têtes, mais il a été terrible en termes d'énergie. Même le match à Rennes, la victoire, elle a été dingue en termes de fatigue. Et donc, en fait, le changement de système qui a fait que Brest a pris beaucoup plus de buts est une des explications.
Tu rajoutes la sortie prématurée de Lesmelou et de Del Castillo.
Ah non, mais dans ce match-là, ouais. je mets à part pour ça. Ouais. Parce que je pense que
la fatigue
a atteint des sommets là, pour Brest. Et en plus, effectivement, ça touche des titulaires qui fait que maintenant l'équipe est moins forte sans eux, c'est évident. Mais même depuis plusieurs matchs, je pense qu'en dehors des problèmes d'arbitrage, Brest est moins fort. Et que et l'histoire de la fin de ce championnat, c'est sans doute que Lille, qui a une meilleure dynamique, un meilleur banc, enfin, un banc, plus costaud, et c'est sûr que pour moi la dynamique est lilloise. C'est évident, ce qui n'enlève rien du tout à ce qu'a fait Brest et ce que continue de faire Brest, parce que hier, si tu veux, là où Comboiré était très bon tactiquement, c'est que lui s'est dit, il est quand même arrivé en disant moi je mets le bus, je vais et on va les emmerder en contre, et franchement il y avait moyen de taper effectivement ce Brest là hier. C'est vrai que c'était
le sens de l'histoire voudrait que quand même Brest soit quatrième sur la saison.
Ouais, tout à fait.
C'est la pire place pour eux, évidemment.
Bah oui, ouais, bien sûr. Malheureusement, c'est la pire place pour eux, mais d'avoir Lille, Monaco et le Paris Saint-Germain aux trois premières places et Brest quatrième. Alors, je souhaite aux Brestois qu'ils soient sur le podium. Mais il y aurait quand même une forme, pas forcément de logique sur la saison, mais par rapport aux qualités intrinsèques, ça resterait quand même logique.
Si, quand même une logique aussi, parce que justement, l'intérêt d'un championnat, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, t'es à la place, entre guillemets, que tu mérites d'avoir. On va parler de Rennes tout à l'heure. Je veux dire, oui. Ils visaient les quatre premiers, ils n'ont pas le niveau d'être dans les quatre premiers. Déjà, d'être dans les quatre premiers, ça veut dire que Brest a le niveau d'être dans les quatre premiers, ce qui est énorme.
S'ils finissent très bien contre Lyon, Nantes et Nice, ils mériteront leur troisième place. Hein.
Écoutez, Eric Roy, il était sur RMC cet après-midi. Il a répondu à ceux qui estiment que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le foot français de voir Brest en Ligue des Champions. Je ne comprends même pas qu'on puisse poser la question de mon côté, mais enfin bon, réponse d'Éric Roy.
Ça m'attriste en fait un peu, parce que j'ai l'impression que si on est là, c'est que je pense qu'on l'a mérité. Et puis après, quand les gens disent oui, mais c'est un championnat fait parce que les autres ne sont pas au rendez-vous, c'est pas notre problème en fait. Si les autres n'ont pas au rendez-vous, c'est plutôt leur problème à eux. Donc oui, c'est un peu décevant, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y en a qui préféraient qu'il y ait des grands clubs avec des grands stades.
À la limite.
Bon, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus.
Après, c'est les goûts et les couleurs. Et encore une fois, il y a les débats pour la santé de la Ligue 1, etc. Mais moi, ça, je m'en fous. Sincèrement, Gilbert, j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant Brest. Ceux qui veulent pas voir Brest,
ils le méritent parce qu'ils sont là, c'est tout.
Non, mais ceux qui n'ont pas vu Brest cette saison, encore une fois, et ceux qui n'ont pas vu que cette équipe-là, elle proposait un football alléchant. Quand on voit que tous les gros matchs de notre Ligue 1 cette saison sont avec Brest, hein, que ce soit Brest-Lens en début de saison, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain-Brest aller au retour, c'était deux très très grands matchs. Le Lyon-Brest, le Rennes-Brest, le Brest-Metz, à chaque fois.
Brest-Marseille.
Brest-Marseille, le 1-0. À chaque fois qu'on était dans des gros matchs avec Brest, on a souvent eu des très très beaux matchs de football. Voilà, aujourd'hui, comme vient de le dire Eric Roy, c'est pas de leur faute si Marseille a mal travaillé, si Rennes a mal travaillé, si Lyon était 18e à la 10e journée.
On rassure Eric Roy, voilà. Brest mérite d'être en Ligue des Champions.
Bien évidemment qu'il mérite en Ligue des Champions. Après, 3e ou 4e. C'est autre chose. Tout dépendra de ce que fera Lille sur la fin de saison. Mais oui, bien évidemment qu'il le mérite.
Dans un instant, on continue le débat sur les places européennes. On dira un mot de Monaco, de Rennes. Et puis ensuite, on passera au maintien. Et puis tiens, si on a le temps d'ici minuit avant le débat Mbappé, j'aimerais quand même qu'on parle un peu du trophée UNFP. On n'a pas eu le temps de le faire. On a eu la liste des nominés la semaine dernière. Bon, évidemment, c'est comme tous les ans, c'est la dinguerie absolue. Et on rentrera un peu dans les détails. J'espère qu'on aura le temps. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilles Darbribois.
22h58, Walid Acherchour, Florent Gautreau et la Formule 1. Événement dans le monde de la F1, messieurs, dames. C'est un tremblement de terre, c'est une tornade, c'est un tsunami. Verstappen n'est pas en tête d'un Grand Prix.
Exactement, Gilbert, puisque il s'est produit là un accrochage tout à l'heure entre Magnussen et Sergeant. Par voie de conséquence, on a d'abord sorti le drapeau jaune dans la première. On voit cet accrochage qui est imputable à Magnussen. Manifestement, il n'était pas passé du tout avec la roue avant gauche. Il est venu percuter la roue arrière droite de la Williams de l'Américain, l'envoyant dans le mur de pneus. Donc, on a neutralisé le secteur dans un premier temps, et puis ensuite, on a sorti le safety car. Donc, le leader à ce moment-là, c'était Norris, puisque Verstappen venait de s'arrêter. Verstappen s'est arrêté au 23e tour. Et du coup, Norris a pu bénéficier d'un arrêt extrêmement intéressant. Et donc, le leader de ce Grand Prix, pour rebondir sur ce que tu dis, alors qu'on vient à peine de passer le cap de la mi-course, 31 tours ont été couverts sur les 57 à parcourir. Eh bien, c'est Lando Norris avec la McLaren. Et Verstappen est derrière, deuxième, Leclerc troisième, Piastri quatrième, Sainz cinquième, Perez sixième, Tsunoda septième, Hamilton huitième, Russell neuvième, et il y a un Français dans les points, et oui, Esteban Ocon est dixième, en profitant, on a bien joué chez Alpine, Alonso onzième et Gasly douzième. Donc c'est un Grand Prix vraiment avec beaucoup, beaucoup d'inconnus, là pour le moment, hein, c'est pas évident du tout, tu vois.
Très bien. Et donc maintenant, dans la Formule 1, on montre les compagnes des pilotes pendant
pas du tout. Tu vois, ton sexisme vient de sortir. C'est une pilote que tu viens de voir qui participe.
Mais il y a marqué, j'ai lu en dessous.
Bianca Atamante, et c'est une
j'ai pas
pilote.
Lu, j'ai cru lire en dessous que c'était la compagne de Norris.
Alors, c'est peut-être aussi une compagne, mais surtout, elle pilote effectivement.
En F1
ouais. Non, pas en F1.
Non, pas en F1, bah non. Ouais, oui. On le saurait quand même.
Ouais.
Oui. Mais il y a eu des pilotes femmes en F1 d'ailleurs.
Alors, il y en a eu très peu. Il y a eu Giovanna Amati, c'est la dernière, c'était une Italienne. Elle n'avait pas réussi à se qualifier parce qu'à l'époque, il y avait 33-34 voitures et il y avait que 26 au départ. Donc, elle n'avait pas réussi. Et puis avant, il y a eu Desiree Wilson, qui était une Sud-Africaine. Ça remonte à pas mal d'années. Il y en a eu très peu, hein, parce que c'est vrai, contrairement par exemple à l'IndyCar, où il y a eu la fameuse Danica Patrick, parce qu'elle, elle a vraiment roulé très très vite. Elle a roulé au 500 miles d'Indianapolis aussi. Elle a même tenu quelques tours en tête. Ouais, ouais. Elle est maintenant commentatrice. Mais en F1, alors le but de cette formule féminine, la F1A, c'est de permettre justement, il y a 16 filles qui pilotent et ma foi pas trop mal, dont une Française, Doriane Pain, qui a terminé deuxième hier de la course féminine.
Oui, Walid, tout la porte, c'est
top.
Mais bonne question,
c'est un puits. Gilbert, il reste à Michel Mouton en rallye. Alors, quand elle était petit, on parlait de Michel Mouton quand on parlait bagnole.
Elle a failli être championne du monde avec l'Audi en 1980.
Et que devient Fisichella? Tu pètes les plombs.
Alors, je peux te dire que son chien s'appelle.
De Ricardo Patrese et de Nigel Mansell.
De Arnaud Trulli et de Fisichella.
On a surtout célébré l'anniversaire de la mort d'Ayrton Senna.
Ah, 30 ans d'Ayrton, oui.
1er mai dernier.
Terrible.
Et je me souviens, c'était, excuse-moi Gilbert, mais ça fait partie des digressions de l'after, mais j'ai revu ce passage très très émouvant étant donné les rapports qu'ils ont eu Prost et Senna dans le tour de chauffe.
Alors, en fait, c'était dans le warm-up. À l'époque, il y avait
un warm-up.
Voilà. Et Ayrton avait adressé un message à Alain.
Déjà, c'était TF1, hein, qui avait un vrai coup.
En fait,
il faisait la reco du parcours, en gros, parce qu'après, il y a le message qu'il fait à Alain Prost, qui était consultant à l'époque.
Voilà.
Il lui dit, ouais. My dear friend Alain, I miss you. Oui, ouais, il dit oui. Je crois qu'il dit oui en mode les pilotes. Peut-être, I miss you, t'as raison.
Ouais.
Et c'était énorme parce qu'on était resté un peu sur la brouille pour les grands publics, en tout cas.
Tout à fait. Il s'était réconcilié sur le podium du dernier Grand Prix en Australie à la fin de la saison précédente, qui était le dernier, où Ayrton et Alain se sont congratulés.
Parce qu'il y avait un respect incroyable, ce qui fait que d'ailleurs Prost portera le cercueil, je crois.
Bien sûr.
Aussi.
Il portera le cercueil à San Paolo le jeudi après. Ouais,
ce message pour moi de Senna à Prost, à chaque fois que je l'entends, il me retourne le cœur. Et derrière, Senna fait quand même le job et il fait tout le tour en donnant toutes ses vitesses et les noms des courbes, et notamment celle où il va perdre la vie. Quoi.
Bah écoute, puisqu'on est toujours sur le régime de safety car et qu'on a le temps, je vais te raconter une autre anecdote qui me met les poils, comme on dit, les frissons à chaque fois. J'avais interviewé Ayrton lorsqu'il a signé la 15e pole, parce qu'à l'époque, on interviewait les pilotes en face to face, comme on dit. Je l'ai interviewé au moins 20 fois. Et là, il était dans la Lotus, la fameuse Lotus Jolt Player, magnifique
noire et dorée.
Ouais. C'était en 87, sur le circuit de Estoril, au Portugal. Et donc, il arrête sa voiture, il fait la pole, il arrête sa voiture, et à l'époque, on pouvait être dans les stands, et avec le caméraman, on était là. Il sort de la voiture, il y a Gérard Ducarouge, l'ingénieur français, qui vient à côté. Et bon, il enlève le casque, et bon, je l'avais déjà interviewé, je lui fais signe, t'es OK? Il me dit, ouais. Donc, je lui tends le micro, et je lui pose une question bateau au début, comme on fait. Alors ce tour, Ayrton, une pole, une nouvelle pole, et là, comme il avait l'ingénieur à côté, les yeux partent dans le vide, il me raconte son tour, mais avec tous les détails que tu cites, les régimes, les passages, là je mets la roue ici, etc. Ça a duré 8 minutes 30, je dis à chaque fois ça me fout les poils, et j'ai dit merci Ayrton. C'est impossible à couper le truc, mais l'interview absolument génial.
Et quelle année ta première saison de F1 que t'as suivi?
Alors professionnellement, 1986. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Ça fait des beaux souvenirs.
Prost champion du monde.
Alors, 1986. Attends, là tu me prends à froid.
Je crois que
c'est pas possible. 87, c'est Nelson Piquet.
Je crois qu'il est champion.
85, c'est Niki Lauda. 86, première année Prost. Absolument, okay. Chez McLaren. Et il est vice-champion pour un demi-point en 85 derrière Niki Lauda.
Très bien. Voilà.
Voilà.
Du coup, on est obligé de refaire la
pub. Du coup, on est reparti quand même. Attends, on est reparti et ça, c'est important. Parce qu'on est au 34e tour de la course sur les 57, je rappelle. Et donc, Norris est au commandement. Et ça, c'est quand même la révolution, hein, comme tu le disais, avec la McLaren devant. Je rappelle que Lando Norris n'a jamais remporté le Grand Prix de Formule 1 jusque-là. Hein, le jeune pilote britannique de McLaren. Verstappen est au deuxième rang. Il est dans ses roues derrière. Norris a des pneumatiques dures qu'il a montées il y a 4 tours. Verstappen a monté des pneumatiques dures qu'il a montées il y a 10 tours. Leclerc est derrière, troisième avec la Ferrari. Il a des pneumatiques dures qu'il a montées il y a 14 tours. Ensuite, on a Piastri avec l'autre McLaren qui a des dures également montées il y a 6 tours. Sainz est cinquième avec l'autre Ferrari. Perez sixième. Tsunoda septième. Les deux Mercedes d'Hamilton et Russell, 8 et 9. Ocon dixième dans les points et Gasly est douzième. Je peux dire, il va s'en passer là jusqu'au bout. Hein.
Dans un instant, Cédric, supporter de Monaco, pour continuer les débats foot, messieurs dames, avec un peu de F1, vous l'avez compris. C'est pas tous les jours qu'on a Jean-Luc Roy avec nous. Hein. Il est descendu de sa moto. Il avait mis son casque pour une fois.
T'as noté qu'on a eu Eric Roy et Jean-Luc Roy dans la même mission.
Exact, c'est la mission des rois. Ouais, c'est pas faux. On connaît un autre roi encore, non ? Il y avait Roy, celui qui présentait le juste prix, là.
Heureusement, ouais. Il est décédé.
Exactement.
Patrick Roy s'appelait Patrick.
Ouais. Exactement. Allez, à tout de suite dans l'after.